RFI, grand reportage.
On m'a diagnostiquée dépressive à mes 7 ans. Et en fait, il s'est avéré que finalement, je suis bipolaire. Alors j'ai eu une très très mauvaise prise en charge parce qu'on ne me croyait pas. J'ai même eu un médecin qui m'a dit que l'anorexie chez les enfants, ça n'existait pas. On me disait que je faisais des caprices et qu'il fallait que mes parents soient plus sévères avec moi. Je voyais des psys à l'école, mais c'était à peu près tout.
C'est devenu un fait de société, en France, ailleurs aussi. Les jeunes vont mal, la santé mentale se dégrade avec notamment des dépressions de plus en plus tôt. Et la crise sanitaire liée au Covid a tout accéléré. Dans le nord de la France, les passages aux urgences pour gestes et idées suicidaires, les consultations pour troubles anxieux et angoisses ont augmenté chez les 10 ans et plus. En 2021, les tentatives de suicide chez les jeunes était même 4 fois supérieure à la moyenne nationale. Une dégradation de la santé mentale qui se heurte à une autre dégradation, celle du secteur psychiatrique en crise depuis plusieurs années. Santé mentale des jeunes, les difficultés de la prise en charge, c'est un grand reportage de Lise Verbeek.
Bonjour les jeunes. Je peux vous parler deux minutes ? T'as quel âge, toi ?
Depuis le Covid, Nordine Lagraghi a vu la santé mentale des jeunes se dégrader. Angoisse, anxiété, repli sur soi, l'éducateur de rue le constate tous les jours sur son secteur, dans la ville de Arnes, une cité minière du Pas-de-Calais entourée de terrils. Il travaille pour l'association de prévention spécialisée Avenir des Cités.
Voilà, on a en fait un trajet où on sait qu'il y a des lieux importants de regroupement, où on sait qu'on va croiser des jeunes et des moins jeunes. En sachant que, vu qu'il pleut, on va pas croiser grand monde.
Comme tous les jours, il arpente le quartier quelques heures avec Célia Mungari, une psychologue de rue recrutée par l'association il y a un an.
L'adolescence est une période déjà où il y a plein de choses qui se passent. La construction identitaire, c'est une période cruciale de la vie, quoi. Donc je pense qu'à un moment donné, si les problèmes étaient traités à un moment T, ils prendraient moins d'ampleur aussi dans l'âge adulte.
Bonjour. C'est quoi vos prénoms? Parce que moi, je vous connais pas.
Anna Julia et tout.
Noélie.
Moi c'est Célia, je suis la psychologue.
Moi je propose une écoute, je suis là pour vous écouter, pour vous aider à aller mieux si besoin. Vous connaissiez pas du tout.
Elle doit souvent leur expliquer à quoi sert un psychologue, un métier encore beaucoup associé à la folie. Dans la rue, elle repère les jeunes qui auraient besoin d'elle.
Une fois un jeune faisait du bénévolat dans le cadre d'une réparation pénale avec les éducateurs. On a discuté tout d'abord de ses études. Après, je voyais qu'il me parlait un petit peu plus de sa vie perso. Et ça a découlé sur une discussion de 45 minutes où vraiment, il a parlé des difficultés intrafamiliales qu'il avait. Il a dit qu'il pense que ça lui ferait du bien de voir un psy, juste pour prendre du recul sur lui-même et pouvoir fonctionner différemment, mais qu'il ne se sentait pas encore prêt. Donc dans ces cas-là, je laisse mon numéro, je laisse venir à moi si besoin. J'ai aussi pu l'orienter pour lui dire ce qui existait en tant que psy.
Les jeunes qu'elle rencontre souffrent de troubles du comportement alimentaire, sont victimes de violences sexuelles, s'automutilent ou n'arrivent pas à faire un deuil. Dans des temps informels de la rue, elle crée un lien de confiance pour les amener ensuite dans son bureau pour des entretiens.
Je présente ma fille.
Enchantée. C'est quoi ton prénom?
Assia.
Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Quelqu'un de très réservé en fait, elle n'a pas d'amis.
De toute façon, elle a votre numéro de téléphone, je lui ai dit elle si pas, vraiment contre, elle a des questions, prêts, si elle veut parler,
elle parle avec moi. Ouais.
Ce dispositif de psy de rue a fait ses preuves et il commence à se dupliquer dans d'autres villes, mais il reste précaire et dépendant des financements de l'Agence régionale de santé qui peut à tout moment les couper.
Bonjour.
Alors, je pense qu'on peut se poser dans une salle comme cela, ouais.
Et pourtant, les besoins sont là.
On a très clairement remarqué qu'il y a eu une augmentation du nombre de demandes et que les situations sont plus graves.
Marc est pédopsychiatre dans un centre médico-psychologique dans la métropole lilloise.
Je suis notamment dans un secteur plutôt précaire, qui fait qu'il y a une gravité sur le plan des pathologies, mais également sur le plan des situations sociales. Et alors c'est clairement intriqué, hein, puisque on ne peut pas prendre en compte la santé d'un enfant, d'un adolescent, sans prendre en compte sa situation environnementale, familiale, sociale, scolaire. Voilà, l'augmentation, par exemple, des faits de violence, des faits de maltraitance, de l'insécurité, de la précarité sociale, parce que ça entraînait aussi des difficultés sur le plan financier pour beaucoup de familles.
Dans les centres médico-psychologiques, les CMP, il y a des infirmiers, des psychologues, des psychiatres, des assistantes sociales. Les soins sont entièrement pris en charge. Ces CMP sont des maillons essentiels de soins soins de santé mentale entre la médecine générale et les hôpitaux psychiatriques. Mais depuis plusieurs années, il manque de moyens humains et financiers. Les listes d'attente s'allongent. Dans le CMP de Marc, une soixantaine de jeunes patients attendent une prise en charge.
Ce n'est pas des soins qui ont un résultat rapidement. Ça ne se résout pas en 7-8 séances. 7-8 séances, c'est pour qu'il y ait une alliance suffisamment bonne pour que la situation du jeune soit suffisamment bien connue et claire pour le praticien. Ça fait que les situations sont beaucoup plus longues à prendre en charge. Ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus longues à finir. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à éponger toute la demande. Sachant qu'on fait déjà un gros tri. On a vraiment une organisation des soins qui fait qu'on ne garde que les situations jugées psychiatriques, c'est-à-dire avec vraiment un trouble modéré à grave, avec une nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire, un avis médical, voire même une indication médicamenteuse.
Bonjour.
Bonjour. Merci. Je suis un petit peu en avance.
Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. On va vous renifler.
Souffrir de troubles psychiques, c'est avoir une maladie invisible aux yeux des autres. Peu de jeunes témoignent, mais certains acceptent pour faire bouger les lignes.
Est-ce que je vous sers quelque chose à boire ?
Je veux bien un petit café si vous avez.
Oui,
super, merci.
Alors, je m'appelle Emma, j'ai 22 ans et j'habite à Amiens. J'ai mes parents qui se sont séparés en 2005 parce que mon papa était alcoolique et violent. Ensuite, j'ai pendant toute cette période-là, jusqu'à de mes 5-6 ans jusqu'à mes 13 ans, j'ai subi des attouchements sexuels par mon grand-père. Alors j'ai toujours été suivie par des pédopsychiatres. J'étais pas une enfant facile à l'école, avec des difficultés, forcément ça occasionne des troubles. Et donc j'ai été suivie pendant plusieurs années, notamment pour les difficultés avec mon papa. Mais après on a compris que toutes ces difficultés-là étaient liées à mes traumatismes sur toute la période d'enfance en fait.
À sa majorité, elle bascule dans un centre médico-psychologique pour adultes, mais aucun psychologue n'est disponible. Elle voit donc régulièrement une infirmière. Après un an, elle décide d'arrêter.
J'avais l'impression de ne plus avancer avec elle et peut-être qu'avec un psychologue, ça aurait été peut-être plus loin. Peut-être qu'on aurait mis d'autres thérapies en place, peut-être la thérapie cognitive et comportementale ou d'autres choses qui auraient poussé un peu plus loin que juste discuter... Et devoir toujours rabâcher la même chose, redire la même chose, alors que il y a différentes façons de le travailler par la parole.
La jeune femme a entamé une thérapie avec une psychothérapeute dans le libéral. À 60 euros la séance, c'est sa mère qui a dû l'aider.
Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Lise de RFI.
Oui, j'arrive tout de suite.
D'accord, à tout de suite, merci.
Bonjour. Étage 2.
Caroline, 21 ans, n'a pas les moyens de payer de telles séances. Elle vit avec son compagnon à Amiens, dans un petit appartement dont elle ne sort pas beaucoup.
Alors très très petite, j'ai commencé à avoir des problèmes de nourriture, avec l'anorexie. On m'a diagnostiquée dépressive à mes 7 ans, et en fait il s'est avéré que finalement je suis bipolaire. Alors j'ai eu une très très mauvaise prise en charge parce qu'on ne me croyait pas. J'ai même eu un médecin qui m'a dit que l'anorexie chez les enfants ça n'existait pas. On me disait que je faisais des caprices et qu'il fallait que mes parents soient plus sévères avec moi. Donc je voyais des psys à l'école, mais c'était à peu près tout.
Les psys qui vous aidaient à l'école ?
Des psys qui m'aidaient pas forcément parce qu'ils racontaient tout à mes parents. Donc j'arrivais pas à me confier, j'arrivais pas à leur dire ce qui n'allait pas. Ça m'enfonçait encore plus parce qu'ils me jugeaient. En tout cas, j'avais l'impression qu'ils me jugeaient. J'avais pas d'aide.
À sa majorité, elle décide de couper les ponts avec ses parents et elle s'installe à plusieurs centaines de kilomètres d'eux. Elle est guérie de son anorexie et sa bipolarité est quasiment stable. Mais pour trouver un suivi avec une psychiatre à Amiens, elle a dû attendre un an et demi. Pour elle, c'est important de garder la même professionnelle.
C'est douloureux de réexpliquer à chaque fois parce qu'on se confie, on se met à nu. Et puis, c'est difficile. Donc avoir la même personne pendant un long moment, c'est beaucoup plus facile, on arrive à mieux se confier et puis elle nous connaît, elle apprend à déceler les non-dits et ça c'est pas mal.
Il a fallu plusieurs années pour que la maladie, la bipolarité, soit diagnostiquée chez Caroline. Il faut du temps pour poser le bon diagnostic. Philippe est psychologue pour enfants dans un centre médico-psychologique près de Lille. Là où avant il suivait les patients quasiment toute leur enfance, Aujourd'hui, les prises en charge se sont raccourcies avec une pression pour poser rapidement un diagnostic.
Sans forcément se préoccuper du fait que ça puisse évoluer. Alors ça a des avantages, ça peut soulager les parents, les enfants parfois. En fait, il y a besoin d'un diagnostic pour avoir des aides, que ce soit à l'école ou pour avoir une école spécialisée. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'exigences à faire des bilans et à apporter une réponse qui serait extérieure, sans considérer en tout cas le développement psychique des enfants. Et surtout, l'expérience que j'en ai eue, c'est que pour beaucoup d'enfants, donc quand les parents se mobilisent beaucoup, vont frapper à toutes les portes, le diagnostic n'est pas le même suivant les différents professionnels. Donc les parents se retrouvent avec un neuropédiatre qui a donné un diagnostic de trouble de l'attention avec hyperactivité, donc qui a donné un traitement. Ensuite, ils font un bilan avec un neuropsychologue qui dit que c'est pas ça, avec un orthophoniste qui dit que c'est encore autre chose. Donc en fait, finalement, le souci du diagnostic, c'est que les gens ne sont pas forcément d'accord et que c'est très délicat de poser un diagnostic pour un enfant.
Les tests, les protocoles se multiplient, selon lui, et il craint une disparition progressive de la pédopsychiatrie.
Il y a énormément de troubles aujourd'hui, donc c'est comme ça qu'ils sont qualifiés. Donc il y a les troubles du spectre autistique, les troubles de l'hyperactivité. Tout ça, c'est englobé dans un gros sac, c'est donc des TND, donc des troubles du neurodéveloppement. C'est tout un pan de la discipline qui est aussi du coup attribué à la neuropédiatrie, qui n'ont du coup pas du tout la même approche que peut être celle de la pédopsychiatrie, à savoir de tenir compte de l'enfant, de sa famille, de ce qu'il ressent, de sa singularité à lui, en fait, de sa façon d'être. Tout ça, c'est complètement dénié au profit d'une globalisation du trouble, avec des réponses qui sont des protocoles et des traitements médicamenteux.
Dans son bureau, Philippe voit de plus en plus de jeunes patients qui se scarifient, qui ont des idées suicidaires. Dans son dernier rapport, Santé publique France indique que chez les 18-24 ans, les tentatives de suicide ont augmenté de 60% depuis un an.
Je ne sais pas dans quel état est l'appart. J'ai laissé mes enfants.
Elle a le droit de sortir ?
Je m'appelle Malika, j'ai bientôt 45 ans. Je suis maman de deux enfants adolescents, dont une fille qui a 17 ans, qui s'appelle Lou, et avec laquelle on a rencontré quelques difficultés au cours de ces dernières années. Pendant au moins dans deux ans, on s'est réveillé chaque jour en se demandant si on la retrouverait en vie ou pas dans son lit. Elle avait fait une tentative de suicide dans son collège où elle avait pris des médicaments dans les toilettes de son établissement. Donc on est sorti de cette période de crise. Elle continue pour autant à se scarifier. Elle a le corps complètement lacéré, du torse à la plante des pieds.
Depuis 5 ans, Lou est passée dans différentes structures, urgence psy, hôpital, centre médico-psychologique. Sa mère s'est sentie seule dans ce parcours difficile.
On a rencontré beaucoup de professionnels différents, mais de façon pléthorique. Et qu'à chaque fois, il fallait qu'on raconte à nouveau notre histoire. Et qu'à chaque fois qu'on l'a racontée, il y avait des choses qui étaient plus entendues que d'autres. Et jamais notre histoire globale n'était entendu totalement. Donc ça a toujours été très frustrant. J'ai aussi toujours eu le sentiment qu'on n'était pas, en tant que parents, associés dans le parcours de soins. Donc il y a trois structures qui s'occupent d'elle. Il a toujours été très compliqué pour eux de communiquer, même si, allez, sur 5 ans, ils ont fait 2 synthèses. Je n'ai jamais eu de retour des synthèses. Ils ne se sont jamais mis d'accord à l'issue des synthèses sur qui faisait quoi. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui est le médecin référent.
Quand Lou est hospitalisée à cause d'une crise, Malika constate le manque de moyens, des personnels débordés. En 10 ans, plus de 2200 lits ont été fermés dans les hôpitaux psychiatriques dans toute la France.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est Lise Verbeek de la radio RFI.
J'arrive, je viens vous chercher.
D'accord, à tout de suite, merci.
Dans celui d'Amiens, 110 lits ont disparu depuis 2015. Il y a 3 ans, une dizaine de médecins ont même démissionné. Florent Buda, infirmier dans une unité mobile psy et secrétaire adjoint de la CGT, dénonce une logique budgétaire au détriment du patient.
Selon les pathologies, je crois que pour un schizophrène, ils estiment qu'en gros, en 3 semaines maximum, il doit être stabilisé et sorti. À peine il est rentré, on doit penser déjà à sa sortie. Sauf que la psychiatrie, c'est pas une science exacte. Donc forcément, au niveau du relationnel, il y a des fois, le travail se fait sur plus longtemps. Parce que dire, au final, il faut qu'il soit pris en charge par des équipes mobiles, donc c'est-à-dire l'ambulatoire. Si le patient n'est pas stabilisé, le travail de l'équipe mobile ne peut pas se faire. Le patient n'ouvre pas la porte, ça a des graves répercussions aussi, et puis le patient se retrouve sans arrêt en rupture thérapeutique, donc il n'y a pas de suivi en fait. C'est la logique maintenant, c'est une logique budgétaire qui est venue casser complètement le soin. Et ce qui, en plus, caractérisait la psychiatrie, c'est la dimension humaine qu'on a perdue. Là, on n'a plus du tout la dimension humaine dans le soin, mais la dimension de rentabilité, d'économie. Toutes ces mesures, là, c'est des mesures budgétaires qui, au final, sont délétères pour les patients.
Bonjour.
Oui, Nadia.
Bonjour, oui, c'est ça.
Enchantée.
Lisa.
Oui, c'est
oui,
ça.
Bonjour, Lisa.
Les patients subissent le manque de moyens à l'hôpital psychiatrique et par ricochet, leurs parents. Nous retrouvons dans un café d'Amiens deux mères, Nadia et Charo. Elles ont réussi à trouver du temps dans leur emploi du temps très chargé entre leur travail et leur fils dont elles s'occupent, qui sont tous les deux schizophrènes. La dernière fois que Nadia est allée aux urgences psy, c'était car son fils était en crise et il a vu un médecin.
C'est professionnel bien sûr, hein. Il a dit que voilà, j'ai senti que votre fils délirait beaucoup. Et puis il a dit que voilà, il faut qu'on le garde. Bon après, moi je suis rentrée. Donc bon, j'ai dit, il est entre de bonnes mains, ça va aller, peut-être il va... Ils m'ont dit qu'on va démarrer tout de suite un traitement.
Mais trois jours plus tard, elle reçoit un appel de son fils.
Avec son téléphone, il me dit, je suis au centre-ville. Ben, j'écoute.
Et l'hôpital, vous n'avez pas, vous non, avez pas prévu.
J'ai rien reçu. J'ai reçu aucun appel. Après, je dis, mince, mais c'est quoi cette histoire-là? Certainement, il commence à délirer. Est-ce qu'il dit... Bon, j'ai appelé tout de suite l'hôpital, j'avais du mal à les avoir. Ils m'ont dit oui, il est sorti parce que ça va, lui aussi, il ne voulait pas rester. Donc on l'a laissé sortir.
Charo, elle, déplore le fait que les proches se retrouvent seuls à devoir gérer leurs enfants malades.
On nous donne cette responsabilité à nous, les parents, de suivre des malades, des fois, qui sont quand même schizophrènes, c'est pas rien. Ils n'ont pas cette possibilité de... se donne pas ce temps de nous expliquer comment faire chez nous. On se trouve en quelque part avec un malade sans savoir quoi faire.
Nadia et Charo ont pu trouver du soutien auprès de l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades Psychiques. L'association propose des groupes de parole et c'est là d'ailleurs qu'elles se sont rencontrées. Sans l'UNAFAM, Charo dit qu'elle aurait sombré face à tous les moments difficiles qu'elle traverse. Elle remue d'ailleurs en ce moment ciel et terre pour trouver un psychiatre à son fils de 21 ans. Car celui qui le suit part en formation un an et il n'est pas remplacé. Nous retournons à l'hôpital psychiatrique d'Amiens, véritable petite ville cachée par de grands murs en briques, avec un parc et des bâtiments datant du 19e siècle. Le docteur Cyril Guillaumont est le président de la commission médicale de l'EPSM, établissement public de santé mentale du département de la Somme. Le manque de médecins psychiatres, il ne peut que le déplorer.
Ça fait depuis une dizaine d'années, au moins, voire plus, qu'on alerte nos tutelles pour dire que la psychiatrie est en difficulté. C'est des choses qu'on subit un peu comme nos patients, c'est-à-dire on a les moyens qu'on a et on essaye de faire avec ces moyens-là au mieux qu'on peut.
Depuis quelques années, le PSM désectorise les soins. Avant, les patients devaient aller chez les professionnels de leur secteur géographique. Désectoriser permet donc, selon le médecin, de favoriser l'égalité d'accès aux soins.
À tel endroit, vous avez une infirmière qui vous évalue et en fonction du tableau de la gravité, elle va vous adresser sur un centre où il y aura plus de moyens, où il y aura des prises en charge possibles. Alors ça amènera certainement les patients et leurs familles à se déplacer un peu plus.
Qui pourront le faire, justement, faire 30 km aller-retour.
C'est un peu un problème qui là aussi nous échappe, mais c'est l'Agence régionale de santé qui chapeaute un peu tout ça, qui pourrait peut-être prendre à corps certains sujets et pouvoir dire, on le règle de telle manière, et puis, mais qui est parfois dans une position un peu frileuse. Pour résumer, quand la politique s'intéresse à la santé, c'est jamais, source de solutions.
Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête.
Santé mentale des jeunes, les difficultés de la prise en charge. Un grand reportage de Lise Verbeck, réalisation Eva Piedet.
Dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer.